France Inter.
It's morning edition from NPR News.
Ben City's and in the house.
Halia Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
So pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Ce soir, dans Un jour dans le monde, nous allons de la plaine de l'Ain jusqu'à la Virginie occidentale, du mouvement social du jour au silence de la gauche américaine, des travailleurs pauvres aux fins de mois difficiles qu'on trouve chez nous, dans cette France qu'on dit moche, à ceux qui se sont jetés dans les bras de Donald Trump. Nous le faisons avec Lumière Lapré, qui est né dans l'Ain, qui y revient et qui a aussi sillonné les États-Unis. Pourquoi Trump, encore lui, est-il en train de gagner par la peur? Nouvel épisode avec la mise sur la touche de Jimmy Kimmel et C'est le monde à l'endroit de Louise Baudet. Le reportage est en Cisjordanie ce soir encore, deuxième volet d'une série avant la reconnaissance de la Palestine par la France. En Cisjordanie, la question, après l'extension grandissante des colonies israéliennes, c'est où aller ?
L'objectif de l'occupant israélien, c'est de vider Jérusalem de ses habitants palestiniens et de les pousser vers les banlieues.
Un reportage d'Amira Swilem à découvrir autour de 18h40. Sous les radars, Guillaume Audat a trouvé les talibans qui prennent contact avec les Européens pour tenter, tenez-vous bien, de reprendre des Afghans. Et puis Stéphane Jourdain, dans la Tech La Première, vous dira que notre vocabulaire ressemble de plus en plus à celui de ChatGPT. Le monde est vaste, les amis, on n'a pas une heure. Allons-y.
Le problème, c'est que c'est toujours aux mêmes qu'on demande des efforts.
C'est ça, voilà. C'est toujours aux gens qui travaillent. Nous, on se lève tous les matins, on commence à 5h.
Les premiers assistés ici, en France, c'est les grands patrons, c'est les grandes entreprises. Et ça, à un moment, ça suffit, quoi.
C'est Eric et Stéphanie qu'on entend dans une manif à Pau, donc aujourd'hui bien sûr au micro d'ICI Béarn. Bonsoir Lumière Lapré.
Bonsoir Fabienne.
Merci d'être avec nous. C'est difficile de décrire votre métier, vous êtes activiste écolo, c'est comme ça que vous vous définissez vous-même. Aux États-Unis on dirait community organizer, vous l'avez d'ailleurs été et c'est pour ça qu'on avait vraiment envie de vous entendre en ce jour de mobilisation chez nous en France, parce que vous signez un livre qui s'appelle Ces gens-là. Le sous-titre c'est Plonger dans cette France qui pourrait tout faire basculer, aux éditions Payot. Et on n'oublie pas qu'on est dans Un jour dans le monde, vous avez beaucoup sillonné les États-Unis, notamment la Virginie occidentale, qui est un État pauvre. Et au fond, comparer les colères, comparer leurs expressions, leurs conséquences, c'est aussi ce qu'on va essayer de faire. D'abord, ces gens-là, c'est vous, Lumière Lapré. C'est de là que vous venez, un village de la plaine de l'Ain, le centre de rien, la périphérie de tout, c'est ce que vous dites. On y croit vos amis d'enfance et leurs voisins. Il y a Mel, Mimi, Yacine, Gégé, Thibaut. Tout le monde bosse. Vous décrivez un monde en fait où tout le monde fait de son mieux pour tout faire bien. Mm-hmm. Et faire bien, c'est juste avoir une vie correcte, sans demander plus au fond. Et au fur et à mesure, c'est comme ça qu'on les voit, vos personnages, ils commencent à remplir un peu moins le caddie parce que c'est cher. Mm-hmm. On les voit réparer la voiture 10 fois pour éviter d'avoir en racheté une. Et au fond, et avec la peur du premier accident de la vie, je me demandais si on les voyait dans les cortèges, en fait. Mel, Mimi, Yacine, Gégé et Thibaut. J'ai pas ce sentiment-là, mais je peux me tromper, en fait.
Alors, ils sont pas syndiqués, ouais, pour l'immense majorité.
Et on va y venir aussi, c'est très impressionnant. Ouais.
Donc pas aujourd'hui. Le 10, il y a eu quelques velléités d'organisation, notamment de celles et ceux qui étaient très actifs dans le mouvement des Gilets jaunes et qui ont un peu rêvé de remettre ça. Ce que moi je constate en tout cas, c'est une vraie désillusion, mmh, face aux moyens d'action traditionnels, par exemple la manif, en premier lieu, où ils disent « mais en fait, nous, on n'a pas l'argent pour faire grève, une manif, ça ne sert à rien ». Donc là, sur les boucles Telegram ou les clubs, enfin les groupes Facebook que je suis d'autour de chez moi, il y a beaucoup de créativité sur comment on fait autrement, c'est-à-dire plus radical et moins coûteux pour les individus.
Et c'est ça qui est très paradoxal quand on regarde ce mouvement-là et quand on vous lit, en fait. Parce que, en effet, on sent ça plus radical, différent, on la sent, la nostalgie des Gilets jaunes. Mm-hmm. Ce moment où on pouvait faire nous, en fait. Oui. On y viendra parce qu'ils disent « je », les gens dans la plaine de l'Ain, mm-hmm, chez vous. Et il y a juste des moments où ils ont réussi à dire « nous » et c'était à ce moment-là. Mm-hmm. Et en même temps, c'est cette manif d'aujourd'hui qui fonctionne, qui pourtant, là, pour le coup, est sur un mode ultra traditionnel. Et vous l'avez dit, c'est une France sans syndicat. Mm-hmm. Vous faites un passage à l'usine, vous leur parlez des syndicats, ça les fait, ils sont morts de rire en fait.
Oui, bah ça leur viendrait pas à l'esprit. Je pense que nous, on est vraiment tiraillés entre le besoin de bonne réputation, parce que on est dans des espaces peu denses où l'interconnaissance structure tout, tout le monde se connaît, et finalement la réputation, quand on a peu de diplômes, peu de perspectives de mobilité, un marché matrimonial assez réduit, c'est un peu tout ce qui nous reste. Ça nous permet d'acheter une maison quand les vieux vendent vendent leur vieille ferme parce que on a une bonne réputation, donc c'est à nous qu'on va la vendre. Ça nous permet de trouver un emploi sur un marché du travail compétitif, un emploi de qualité, parce que du travail chez moi, il y en a.
Il y en a, ouais.
Mais du travail de qualité en CDI, le CDI qui permet d'avoir un crédit pour acheter une maison, ce qui est le Graal chez nous. Et donc, il y a vraiment cette tension entre cette envie de respectabilité, de faire partie des gens bien, et en même temps, la reconnaissance profonde que ce système dans lequel ils ont beaucoup investi, en prenant des crédits, etc., en essayant de jouer le jeu, ne leur rend pas l'appareil, en fait.
Ils le remettent pas en cause. Hein. Et c'est vous-même qui l'écrivez, vous dites les sujets économiques sont partout, mais ils sont jamais politiques.
Exactement.
Donc
exactement.
On parle de pauvreté, mais on parle pas d'inégalité avec un grand I. On parle d'accident du travail, mais pas de violence capitaliste, c'est comme ça que vous l'écrivez. Exactement. On parle de licenciement abusif, mais pas de syndicalisme.
Et ça, c'est vraiment pour moi ce qui nous... Je dis nous, parce que moi je suis de gauche, je parle en tant que femme de gauche, c'est ce qui nous attend. Et quand je dis la gauche, c'est la gauche large, organisée. Pour moi, les syndicats, les ONG, les petites assos et les partis, bien évidemment. Mais il faut qu'on arrive à refaire le lien entre toutes ces aspirations individuelles et la conclusion qui, pour moi, est évidente, qui est un besoin de collectif. Mmh. Et ce que moi, j'ai compris, c'est que... Et c'est pour ça que je parle du syndicalisme dans ce livre, parce que j'y crois vraiment. Pourquoi ? Parce que mes proches, ils ont besoin de preuves. Ils n'en peuvent plus des grands discours, ils le disent beaucoup, on nous l'a déjà fait, ah, c'est bon, ça c'est, je l'ai déjà entendu, ça cause, ça fait rien. Alors que le syndicalisme, en permettant des victoires, même des petites victoires, par exemple, dans le passage à l'usine que je raconte, il faisait très chaud parce que je travaillais en été, on avait une pause chaleur qui était ridicule, et ben une victoire du syndicalisme, ça peut être, en fait, on a 10 minutes de pause chaleur ou on a une heure de pause chaleur s'il fait plus de 35 degrés, ce qui est régulier dans des entrepôts de logistique. Et ça permettrait de dire oui, ça fonctionne. S'organiser ensemble, ça fonctionne.
C'est ce que vous essayez de faire, vous, c'est le boulot d'un community organizer. Il y a une chose qui m'a frappée, il y a cette phrase qui m'a vraiment sauté au visage, qui dit, je crois que c'est Mel, encore elle, parce qu'elle a passé la langue dans sa poche, qui dit, on sait pas trop quoi faire de nous, en fait. Et au fond, c'est cette France-là qui travaille, donc qui n'a pas besoin, en tout cas qui a moins besoin que d'autres d'aide sociale, etc. La plaine de l'Ain, vous le dites, il y a 60% de gens qui payent de l'impôt sur le revenu, c'est beaucoup plus grand que la moyenne nationale, etc. Donc au fond, ils ont plein de soucis, mais pas de très gros soucis. Donc on ne sait pas quoi faire d'eux.
Le jambon dans le sandwich, c'est comme ça qu'il s'appelle beaucoup, coincé entre les petits et les gros. Moi, ce que j'essaye de montrer, c'est que ils sont aussi victimes d'une propagande du capitalisme qui veut leur faire qu'ils, à choisir entre les petits et les gros, ils ont plus d'intérêts matériels partagés avec les gros. Or, c'est faux. Mais c'est vrai que si on revient à cet enjeu de la réputation, comme il n'y a pas grand-chose et qu'on se bat, moi je trouve un peu pour les miettes du capitalisme, eh bien, il faut se distinguer les uns des autres dans des zones où il n'y a pas de gros. Donc ce qu'il y a, c'est, et c'est pour ça que c'est fascinant, moi je trouve, comme endroit, c'est que c'est la bataille permanente, même au sein des familles, entre les classes populaires inférieures, supérieures, les petites classes moyennes, et ça circule au sein des familles.
Et dans cette France-là, qui a vu un Rassemblement National en très très grande progression, évidemment, l'espèce d'inventaire à la Prévert que vous faites de vos amis est assez édifiant quand même. Mimi, dites-vous, vote pour Macron, Gégé vote pour Marine, Mélanie vote pour Marine, parfois pour Asselineau, le plus souvent elle ne vote pas, Colette vote socialiste, Guillaume vote Mélenchon. Mais qu'est-ce que ça dit, ça, en fait ? Parce que là aussi, encore une fois, si on compare avec la mobilisation d'aujourd'hui, cette France-là, c'est pas dans ces cortèges-là qu'on la voit. En fait, à aucun moment. Et ce mélange-là, c'est pas dans ces cortèges-là qu'on le voit non plus. Cette hésitation-là, au fond, ils savent pas qui on est, mais nous, on sait pas qui on est non plus, on sait pas pour qui on vote.
On l'a vu chez les Gilets jaunes, ce mélange, quand même. Moi, je crois que ce qui se passe chez nous, c'est vraiment qu'il y a... quand on écoute les gens parler, par exemple Gégé, qui est un personnage de mon livre, dit par moment il faut qu'on mette le RIC, je veux plus de démocratie, il faut que le peuple puisse décider. 30 secondes après, il dit, il nous faut un homme fort pour résoudre tout ça. Donc, plus de démocratie, moins de démocratie. Je pense que beaucoup de gens, à gauche notamment, dans ma famille politique, disent ils sont idiots, ils sont bêtes, ils ne font pas sens. Ouais. En fait, ils sont perdus. Et moi, ma conclusion, après ces années à rentrer à la maison, à écrire ce livre et à faire de la politique chez moi, c'est il y a une bataille pour le sens. Il y a un vide de sens dans leur cœur et dans leur esprit. Et aujourd'hui, il y a différentes forces politiques qui se font rage pour gagner cette bataille du sens.
Alors, Lumière Laproche, je vais quand même vous le citer parce que c'est vraiment le moment qui m'a fait rigoler. Parce qu'effectivement, vous le dites, on sait très bien où est votre cœur. Et puis votre copine Mel, quand vous vous présentez aux élections, vous dit, mais enfin, j'ai jamais compris comment tu pouvais être de gauche comme ça. T'es pourtant la personne la plus intelligente que je connaisse. Et bam, Je voudrais qu'on le fasse, le saut dans l'Atlantique, le saut de l'Atlantique, parce que précisément, vous nous avez déjà donné quelques pistes sur l'envie de l'homme fort, en fait. Mm-hmm. Et vous le faites vous-même, en fait, dans votre livre, parce que vous citez cette étude sociologique absolument dingue qui m'a vraiment sauté au visage. Et en gros, pour faire très vite pour nos auditeurs, voilà une entreprise qui a besoin d'une étude parce qu'elle sait qu'elle va polluer, c'est dégueulasse, donc elle cherche où elle pourra s'implanter sans qu'il puisse y avoir de soucis autour. Et donc, il lui faut des petites villes en zone rurale, il lui faut des gens peu éduqués, plutôt catholiques, conservateurs, de droite, avec un historique agricole et plutôt pro-business. Et vous avez exactement reconnu l'endroit où vous êtes. Mm-hmm. Mais j'ai envie de dire qu'il est là le lien, parce que cette petite ville-là, elle est partout. Et mm-hmm. elle est aussi dans les États-Unis de Donald Trump. Elle est partout dans les États-Unis de Donald Trump, en fait.
Tout à fait. Moi, ce qui m'a complètement bouleversée quand j'ai lu cette étude, c'est qu'en fait, il y avait... Tout ce qui nous arrivait n'était pas un hasard. Moi, j'ai grandi dans les deux bourgs autour de chez moi. Il y a 8 sites Céveso. Mm-hmm. Et en fait, notre air est empoisonné, l'eau est empoisonnée, elle est utilisée par la centrale nucléaire pour
retraiter les tours. Vous êtes le couloir des centrales nucléaires.
Exactement, on est en fait un peu la poubelle de Lyon par ailleurs. On se tape toutes les autoroutes, les lignes de chemin de fer. Et ce qui m'a vraiment surpris, c'est que moi-même, je n'avais jamais politisé ça. Je pensais que bon, bah, il y avait de la place, on nous avait mis là. Et de réaliser qu'il y avait eu à un moment dans des bureaux... dans un autre pays que le mien, des gens en costume qui avaient fait une espèce de petite étude pour savoir qui seraient les meilleures victimes et qui serait le moins susceptible de se rebeller et voire d'être reconnaissant. D'être le réceptacle de tout ça.
Mais c'est même l'inverse. Et c'est pour ça que le parallèle entre la plaine de l'Ain qui est chez vous et la Virginie occidentale où vous avez travaillé, la Virginie occidentale, c'est une mono-industrie qui a été organisée pour être une mono-industrie, si bien que les gens n'ont pas d'autre choix. Ils se sont tués les poumons et en même temps, ils les réclament, leur mine. Exactement comme chez vous, on sait ce que ça veut dire, mais on la réclame, la centrale nucléaire. Et j'ai eu vraiment l'impression que, même colère, même combat, mêmes arguments, même personnage, les petits comme les grands, en fait.
Oui, et moi, ce qui me donne de l'espoir, c'est que, encore une fois, je reviens sur cette bataille du sens. Pour moi, c'est parce que les gens autour de moi pensent sincèrement que c'est un choix entre le chômage ou travailler, accéder à ce que la société de consommation a à offrir et ce à quoi ils ont envie d'accéder, au détriment de leur santé ou du sens au travail, ou etc. Et c'est là où je pense qu'on peut faire différemment. Mais en tout cas, ce que je constate aujourd'hui, c'est que c'est vraiment profondément au fond d'eux, l'idée un peu sacrificielle que pour accéder à ce qu'on nous dit qui est désirable, être propriétaire, une belle voiture, des vacances, il faut payer de son corps.
Le grand saut, les États-Unis l'ont fait, encore une fois, l'État de West Virginia, que vous connaissez bien, l'a fait aussi, il l'avait fait depuis un bout de temps, mais on ne les entend pas le regretter, ces gens-là, aujourd'hui.
Alors ça, c'est très intéressant, parce que moi, ce que j'entends des personnes que j'ai... Donc j'ai passé 8 mois sur les routes des Appalaches, notamment en Virginie occidentale, avec une population qui est ultra majoritairement trumpiste, en effet, après avoir été démocrate pendant bien plus sûr. De 100 ans, hein, quand même. Et quand je les ai réinterrogés pour les 100 jours de Trump, je voyais quelque chose de très intéressant qui était, quand même, les gens ne sont pas idiots, ils se rendent bien compte que ce qu'on leur a promis et ce qu'ils récupèrent, ça n'est pas la même chose. Qu'on leur avait promis un plus gros pouvoir d'achat et ce qu'ils récupèrent, c'est l'armée dans la rue. Qu'on leur avait promis des courses moins chères, or l'arrêt des guerres, or c'est plus d'argent pour la guerre, avec un ministère de la guerre maintenant. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que je reviens sur mon histoire du sens, parce que c'est ça, les gens essayent de faire sens. Et il y a des grands moments de dissonance cognitive, où les gens disent « Bon, alors on m'avait promis ça et j'ai ça, donc quoi ? Bah alors je dois être trop bête, c'est moi qui dois pas comprendre. Ça doit être juste un petit moment et puis après ça va s'arranger. C'est très dur de dire qu'on s'est trompé. Oui. Surtout quand on est déjà la cible de moqueries qui nous dit qu'on est idiot, qu'on est bête, qu'on est inculte et qu'on n'y comprend rien. Et dire, bah oui, c'est vrai, je me suis trompée, c'est très difficile.
Mais parce que quand même, et je me demandais en fond si ça résonnait pas tout autant chez nous que là-bas, on a l'impression que Trump est aussi arrivé sur un désir d'autorité, sur un désir de poigne. Vous en parliez également pour votre plaine de l'Ain. C'est pas un alignement de planètes, c'est pas les erreurs de Biden. Trump est peut-être au fond le vrai reflet des États-Unis. Peut-être que l'âme collective des États-Unis, c'est lui. Exactement comme nous, qu'on le veuille ou non, notre âme collective également, et peut-être que le vrai reflet de ce que nous sommes, est très contraire à ce qu'on a pu voir dans les manifs aujourd'hui.
Ben, c'est ce que je dis à la fin de mon livre. Moi, je crois pas aux monstres. Je crois qu'au sein de nous-mêmes, il y a une part de violence et il y a une part d'espérance collective. Et je crois que la bataille politique qui nous attend, c'est cette bataille pour savoir quelle part de nous va gagner. Est-ce que c'est le repli ? Est-ce que c'est la violence ? Est-ce que c'est la haine ? La mort ? parce qu'on parle des États-Unis, mais là, c'est ce qui est en train de se passer. L'appel à la guerre civile, l'appel à la vengeance sanglante, ou est-ce que c'est un moment où on va se dire collectivement, mais on a plus à gagner à s'allier que à se tuer entre nous? J'espère sincèrement que ce sera le deuxième
aussi,
qui gagnera.
Je l'espère aussi.
Et je pense que c'est possible. Vraiment, je pense que c'est possible. Et j'en veux pour preuve que la Virginie occidentale, qui est un État si trumpiste, a placé Bernie Sanders en tête des primaires démocrates par rapport à Hillary Clinton. La totalité des comtés l'a fait. Donc en fait, c'est bien qu'il y a aussi juste de la colère.
Et une colère qui est partagée et qui traverse effectivement l'Atlantique en attendant ces gens-là, Loumire Lapraie, plonger dans cette France qui pourrait tout faire basculer. C'est passionnant. Merci. C'est chez Payot et merci beaucoup de votre passage chez nous. La suite dans Un jour dans le monde, c'est Louise Baudet, c'est Le Monde à l'endroit, Louise.
Et on reste en Amérique où la liberté d'expression, pilier de la démocratie, devient toute relative.
Allez, juste après Billie Eilish.
I wish you the best for the rest of your life. Felt sorry for you when I looked in your eyes. But I need to confess, I told you a lie. I said you my life, the love of my life. Did I break your heart? Did I waste your time? I tried to be there for you, then you tried to break mine. It isn't asking for a lot for an apology, for making me feel I could kill you if I tried to leave. You said you'd never fall in love again because of me, then you moved on immediately. But I wish you the best for the rest of your life. Felt sorry for you when I looked in your eyes. But I need to confess, I told you a lie when I said you,
que ça s'appelle L'amour de ma vie, dites-moi, cette chanson de Billie Eilish qui est dans la playlist de France Inter. Le monde à l'endroit, c'est Louise Baudet.
Fabienne Synthèse. Le 18-20.
Et cette question, Louise, pourquoi l'intimidation est le moteur de la guerre culturelle de Trump?
Oui, de mort de rire à mort de peur, les patrons des grandes chaînes américaines qui privent d'antenne leurs humoristes stars, Jimmy Kimmel sur ABC, Stephen Colbert sur CBS, leurs late shows ont fait de la satire de Donald Trump un thème de prédilection. Viré, comme pourraient bientôt l'être deux autres vedettes, Jimmy Fallon et Seth Meyers, figures de NBC, virées sous la pression de Donald Trump, pression consciencieusement relayée par la Commission fédérale des communications, l'équivalent américain de l'ARCOM, qui a la haute main sur les licences de diffusion et qui approuve ou non les fusions. Comme par hasard, le groupe Nexstar, propriétaire de nombreuses chaînes affiliées à ABC, veut acheter un autre groupe, 6 milliards de dollars l'opération. Même enjeu pour Paramount, la maison mère de CBS, au moment même où elle mettait un terme au late show de Stephen Colbert. Satisfaire le régulateur des médias et son patron Donald Trump, seule façon de continuer à faire des affaires.
Et il n'y a pas que les télés qui sont ciblées.
Oui, Donald Trump a prévenu, les médias de gauche radicale travaillent dur pour détruire les États-Unis. Nous allons les arrêter à tous les niveaux. Et le président américain a une définition très large de la gauche radicale. Il attaque en justice le New York Times, premier journal du pays, et lui réclame 15 milliards de dollars, cette fois son chiffre d'affaires, pour avoir questionné sa réussite comme magnat de l'immobilier et présentateur télé. Diffamation, dénonce Donald Trump, qui a porté plainte également contre le Wall Street Journal en juillet pour 10 milliards de dollars. Loin de baisser les armes, les deux titres de presse écrite ont annoncé qu'ils allaient riposter.
Alors, Louise, la croisade médiatique de Trump, elle n'est pas nouvelle, mais elle change de dimension avec la mort de Charlie Kirk.
Oui, pour le président américain, son administration et ses soutiens, l'influenceur est mort en martyr et toute critique doit être punie. Toute critique contre lui ou contre son camp. Jimmy Kimmel a été sanctionné pour avoir accusé la droite MAGA d'exploiter politiquement son assassinat. Et la chasse aux sorcières ne se limite pas à la sphère médiatique. Des dizaines d'enseignants militaires employés du secteur privé ont perdu leur emploi ces derniers jours. Jour sur simple dénonciation. Au-delà des frontières, le département d'État entend traquer les étrangers qui louent, rationalisent ou minimisent la mort de Kirk afin de les priver de visa. Et l'administration Trump envisage d'autres actions choc contre les discours de haine.
Et puis il faut rappeler, Louise, que le discours de haine, ça n'existe pas dans la loi américaine.
Effectivement, c'est le premier amendement, pilier de la démocratie américaine, qui assure à la liberté d'expression un champ d'application beaucoup plus étendu que la loi française. Traditionnellement, la droite américaine s'en fait le premier défenseur d'ailleurs contre les libéraux accusés de censurer cette liberté fondamentale. Kirk lui-même a fustigé l'idée de discours de haine qui n'existe pas légalement en Amérique. Il y a les discours grossiers, les discours malveillants et tous ces discours sont protégés par le premier amendement, écrivait l'an dernier l'influenceur sur XX, ex-Twitter, racheté en 2022 par Elon Musk au motif, rappelez-vous, qu'il entravait la liberté d'expression, liberté sacrée en Amérique, liberté devenue notion à géométrie très variable, la liberté pour mes idées, pas pour celle de mes détracteurs.
Louise Baudet, merci beaucoup. Le reportage d'un jour dans le monde est en Cisjordanie ce soir encore, à 4 jours de la reconnaissance de la Palestine par Emmanuel Macron et d'autres d'ailleurs. Deuxième volet d'une série de reportages signé Amira Swilem. On a entendu hier la préoccupation, la très grande inquiétude même face à la colonisation israélienne grandissante. Plus de 40 000 personnes ont été déplacées de force depuis janvier, rien que dans le nord de la Cisjordanie. Alors la question qui vient après, c'est où aller ? Et le reste, c'est Amira Swilem qui raconte.
Assis sur une chaise en plastique, Oussama Youssef se repasse les vidéos de ce jour de janvier qui a fait basculer sa vie.
Un drone est venu et nous a donné l'ordre de partir. La zone a été décrétée zone militaire et donc on pouvait être bombardé à tout moment. Moi je suis un père de famille, j'ai des enfants, donc quand j'entends un drone qui dit qu'il faut partir, je pars. J'ai eu peur pour mes enfants.
40 familles de Jénine ont trouvé refuge dans cette résidence étudiante. Oussama Youssef s'est improvisé concierge de l'immeuble. Il nous présente un de ses voisins, Ahmed. S'ils ont perdu leur maison eux aussi, Ahmed et sa femme n'ont rien perdu de leur hospitalité. Ils servent café, thé, jus et galettes de thym, mais aussi des souvenirs sur leur téléphone.
Tu vois là, à l'emplacement de notre maison, il n'y a plus que de la terre et des pierres. Ça a été les jours les plus durs de notre vie. C'est la maison de mon enfance. C'est là-bas que j'ai grandi. C'est là-bas aussi que je me suis marié. On a tout perdu. Quand on perd sa maison, c'est comme si on avait perdu toute sa vie, en fait.
Jénine est désormais surnommé le Petit Gaza. Et comme à Gaza, l'armée israélienne justifie ses destructions par des opérations qualifiées d'antiterroristes. Moins de terres pour les Palestiniens, cela veut dire mécaniquement une densité plus grande. Dans le quartier de Kfar Aqab, coincé entre Jérusalem et Ramallah, les immeubles s'allongent et les prix explosent.
Bienvenue au Caire.
Cet homme, qui ironise sur la situation, c'est Shadi Hazin, un promoteur immobilier, juché sur un balcon du 19e étage d'un immeuble en construction.
L'objectif de l'occupant israélien, c'est de vider Jérusalem de ses habitants palestiniens et de les pousser vers les banlieues. Ici, c'est un appartement d'environ 140 mètres carrés. Il est mis à la vente pour environ 165 000 euros. Les prix ont augmenté de façon délirante ces dernières années.
Mais même à ce prix-là, les ennuis ne sont pas finis pour autant. Cette banlieue dépend de la municipalité de Jérusalem, administrée intégralement par les Israéliens, depuis qu'ils ont annexé la partie orientale de la ville, censée revenir aux Palestiniens. En clair, un titre de propriété ici ne vaut pas grand-chose.
Il y a une clause dans le contrat qui dit que l'acheteur a acquis un bien qui a été construit sans autorisation et qu'il en assume l'entière responsabilité en cas de démolition ou de pénalité.
À cette pression du terrain, s'en ajoute une autre plus subtile, mais qui n'échappe pas à l'œil affûté de Razen, psychologue itinérante.
Là, on est dans un van de 7 places. C'est notre transport public. Ils ont fermé le checkpoint. C'est pour ça que ça bouchonne. Essaye de baisser ton micro pour qu'ils ne le prennent pas.
Elle l'a bien remarqué. De plus en plus, des drapeaux israéliens font leur apparition sur les routes de Cisjordanie occupée. À certains carrefours, des autocollants ou tags avertissent les Palestiniens qu'ils n'ont aucun avenir ici désormais.
L'objectif, c'est de maintenir la population dans un sentiment de désespoir. Et c'est vraiment douloureux. Il n'y a aucune garantie, mais malgré ça, je choisis de vivre. Je continue de dire que je veux fonder un foyer. Pour combien de temps? Quelle en sera la stabilité ou la sécurité? Je ne sais pas.
Près de 80 ans après la création de l'État d'Israël, le spectre de la Nakba flotte toujours sur la Palestine.
Amira Swilem pour les reportages. Merci beaucoup. On est en retard pour aller ensemble jusqu'à 19h. On regarde d'abord Sous les radars avec vous, Guillaume.
Oui, Audin. Sous les pyramides où plane un mystère, direction le Caire.
Et on plonge dans la tech, la première dans l'IA, Stéphane Jourdain.
Les êtres humains parlent de plus en plus comme des IA, chronique flippante.
Allez, à tout de suite. Faisons d'abord une escale à Nashville avec un petit ovni, figurez-vous, parce que voilà, Personnel Jesus de Depeche Mode, chanté par qui? Par Johnny Cash. C'est ouais, tellement génial. Cash.
Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care.
Géniale version de Personal Jesus signée Johnny Cash. Guillaume Audin regarde Sous les radars et c'est maintenant.
Und jetzt will die neue Koalition von Konservativen und Sozialdemokraten die Aufnahmeprogramme ganz einstellen.
Extrait d'un reportage de la Deutsche Welle. L'Allemagne resserre très significativement ses procédures d'accueil des réfugiés afghans.
Oui, et en réalité, mais en toute discrétion, cela va plus loin qu'un simple renforcement des contrôles et des procédures d'admission. Ces derniers mois, l'Allemagne et la Suisse et l'Autriche ont envoyé des délégations consulaires à Kaboul pour discuter avec les talibans dans le but de négocier et d'organiser des rapatriements. C'est ce que l'on apprend à la lecture du Financial Times du jour. Des émissaires talibans ont même été accueillis, figurez-vous, en Suisse récemment afin d'aider les autorités à identifier des Afghans menacés d'expulsion. Alors, officiellement, le dialogue est rompu avec ce régime qui opprime sa population. Et les femmes, avant tout, elles sont engagées, les femmes en Afghanistan. Mais voilà, l'immigration en Europe est au cœur des débats. Les talibans l'ont bien compris. Ils profitent de nos crispations sur ces questions pour briser leur isolement diplomatique et au nom d'une certaine réelle politique. Et plutôt que de les défendre au grand jour, l'Europe semble prête à s'asseoir sur un certain nombre de ses valeurs contre des charters. Direction Kaboul.
Les voici de retour à Séoul, Guillaume, de retour des États-Unis où ils avaient été arrêtés. Vous nous aviez raconté cette histoire. 300 ouvriers sud-coréens qui font le récit de leurs conditions de détention.
Menottés, enchaînés, parqués à 70-80 par dortoir dans des conditions spartiates, sinon insalubres. Voilà comment ont été traités ces 300 ouvriers d'une usine Hyundai en Géorgie, à la fois par la police anti-immigration, arrestation plus que musclée sous l'œil des caméras, et puis loin des objectifs, humiliés, disent-ils, par l'administration pénitentiaire américaine. Quand j'ai vu ma famille pour la première fois à l'aéroport, décrit l'homme qu'on a entendu, il témoigne anonymement sur la BBC, j'ai souri, je les ai serrés dans mes bras, mais je n'ai rien ressenti, je suis devenu un être vide. Ils ont passé une semaine derrière les barreaux, ces 300 ouvriers sud-coréens. Des nuits à même le sol, des insectes dans les bouteilles d'eau, des papiers signés sans explication, tout cela sous les rires goguenards de leurs matons. Certains ouvriers racontent des moqueries racistes, des imitations de yeux bridés. La colère monte à Séoul. Le chef de la diplomatie annonce l'ouverture d'une enquête sur une possible violation des droits humains par Washington. Une affaire qui interroge, ou plutôt éclaire, la façon dont l'administration Trump traite les travailleurs étrangers, quand bien même ceux-ci sont entrés légalement en provenance d'un pays allié.
Et puis le mystère plane toujours, c'est ce que nous dit ce présentateur de la télévision égyptienne, mystère autour de la disparition d'un bracelet extrêmement précieux de l'époque des pharaons.
Et toutes les polices du pays sont sur les dents, ports, aéroports, frontières, enquête interne, recensement complet. Le musée égyptien du Caire recherche désespérément ce bijou d'une valeur patrimoniale inestimable, une pièce somptueuse en or, sertie de perles, sphérique, en lapis, lazuli, bracelet daté de 3000 ans, porté en Égypte antique par quelques humaines divinités sous le règne du pharaon Amenemopé. Vous y êtes, hein, là, sous les pyramides, je vois. Ouais. Ce bracelet, il a disparu des collections. Malheureusement, hein, on ne sait comment, aucun indice. Les autorités affirment que l'incident n'a pas été signalé tout de suite pour, je cite, garantir le bon déroulement des investigations. Petite langue de bois, ça sent grand embarras. Ce bracelet, il fait partie d'un incroyable ensemble de 170 000 objets sacrés. Il disparaît à quelques semaines de l'inauguration du Grand Musée d'Égypte qui rassemblera désormais toutes ces pièces, dont la fabuleuse collection dont vous rêvez, celle de Toutankhamon.
Guillaume Moda, tous les soirs dans Un jour dans le monde, merci beaucoup. La Tech la première, c'est le jeudi et c'est Stéphane Jourdain.
France Inter, le 18-20.
On l'a dit plusieurs fois ici, Stéphane, les êtres humains adoptent massivement ChatGPT et les intelligences artificielles génératives, et ça commence à se voir dans notre langage même, puisque vous nous dites, Stéphane, que les gens commencent à parler comme des IA.
Et oui, c'est toujours intéressant quand Sam Altman s'étonne des effets de ChatGPT. Il y a 10 jours, le patron d'OpenAI a vécu, je le cite, une expérience étrange qu'il a partagée sur Twitter. Alors qu'il parcourait les forums de discussion du réseau social Reddit, les échanges était tellement calibré à la manière de ChatGPT qu'il a cru que c'était des IA qui se parlaient entre elles. Or, vérification faite, c'était bien des humains. Les vraies personnes, écrit-il, ont adopté les tics de langage des IA génératives.
Alors ça paraît complètement fou, mais c'est une étude scientifique qu'il dit et qui vient corroborer ce ressenti.
Oui, des chercheurs de Floride ont passé au crible des dizaines de milliers de podcasts anglo-saxons dédiés à la science ou à la tech, avant et après l'arrivée de ChatGPT en 2022, pour voir si l'IA avait changé notre façon de parler. Verdict, oui, des mots ou expressions typiques de ChatGPT sont de plus en plus utilisés dans les podcasts, comme surpassé, méticuleux, stratégiquement. Ces mots qu'affectionne ChatGPT ont été adoptés par les êtres humains. Muriel Popa-Fabre, experte en traitement automatique du langage, nous donne quelques exemples de ces tics de langage des IA.
Par exemple, en français, plonger dans les détails, avec toujours ce verbe d'elve de l'anglais qui revient. Il est crucial de comprendre. Et des phrases qui commencent avec « dans un monde qui évolue, un rythme effréné ». Voilà quelques exemples en français.
ChatGPT aime aussi les « pour conclure », les « il est important de noter » ou les « pour analyser en détail ». Et par capillarité, les humains s'y mettent aussi. C'est la deuxième étude d'envergure qui pointe ce mouvement, Muriel Popa-Fabre.
Il y a déjà deux études qui documentent un effet d'homogénéisation linguistique. Donc, on arrive un peu à cette situation où l'IA conversationnelle a été modelée par les banques d'entraînement qui lui ont été fournies. Et maintenant, c'est l'IA conversationnelle qui est en train de remodeler la façon dont on parle, comme une sorte de boucle de retour culturel.
La revanche culturelle de l'IA, vous n'avez pas fini d'en entendre parler.
Alors ça soulève quand même plein de questions. D'abord, pourquoi ChatGPT a des tics de langage ?
Alors pour deux raisons. D'abord, son entraînement. ChatGPT a digéré le web mondial, et ce web mondial est tout sauf neutre. Il est majoritairement anglais, et donc on retrouve des structures de phrases anglo-saxonnes dans sa façon de parler. Sa phase d'alignement ensuite, quand des humains ajustent ces IA pour qu'elles s'expriment de manière cohérente, ils leur appliquent des canevas de langage. Et comme ces IA sont souvent américaines, ces canevas sont américains. Raison pour laquelle ChatGPT est souvent jugé trop enthousiaste par ses utilisateurs français.
Et donc le risque dans tout ça, c'est de finir dans un monde complètement standardisé qui gomme toute diversité.
Oui, à cause de l'IA, et il faut bien le dire, à cause de notre paresse, nos productions se ressemblent de plus en plus. C'est la thèse du livre que vient de publier Marion Carré, une figure de l'IA tricolore. C'est ce qu'elle appelle le paradoxe du tapis roulant.
C'est-à-dire qu'on emprunte l'IA pour nous permettre d'accélérer, d'aller plus vite dans la production de textes, d'images, de contenus divers et variés. Sauf que petit à petit, on se repose de plus en plus sur cette intelligence artificielle. Et à l'arrivée, on se rend compte qu'on va tous exactement dans la même direction.
Dans la même direction et donc au même endroit, gare à notre paresse intellectuelle, c'est son message, d'autant qu'il n'y a pas que le texte en jeu.
Ce phénomène de contenu généré par IA qui se ressemblent les uns les autres, on le voit de plus en plus avec des images, des vidéos, des contenus qu'on décrit en anglais comme le AI slop, que je pourrais traduire comme de la bouillie d'IA. Et qui prolifèrent parce qu'en fait, ces contenus, ils sont peu coûteux à produire. Et c'est pas que le propre des images, c'est aussi un sujet pour la musique. Par exemple, on a 30 000 musiques générées par IA qui seraient téléchargées sur Deezer chaque jour. Donc on se rend vraiment compte de l'ampleur du phénomène.
La bouillie de l'IA, le voilà, le grand remplacement qui nous guette.
Et qui pourrait emmener les experts en IA à gentiment se désespérer du monde qui vient.
Oui, j'en parlais en toute déprime avec Muriel Popa-Fabre, experte IA pour le Conseil de l'Europe.
Il faut se dire qu'agir sur le langage, c'est aussi agir sur la culture et sur une certaine vision du monde. Donc, ça a un énorme impact sur la standardisation de l'expression humaine.
Donc, ça y est, on y est. On va se mettre à écrire, à lire, à parler et donc à penser comme des anglo-saxons.
Disons, un anglo-saxon passé dans une moulinette statistique.
Donc, des anglo-saxons déjà un petit peu limités.
Un peu standardisés.
C'est très inquiétant.
J'avoue que ça fait partie des éléments qui sont au cœur des préoccupations de toutes les personnes qui travaillent sur la liberté d'expression.
Et alors, vous êtes optimiste ou pessimiste ?
Optimiste parce que je suis assez convaincue que les hommes aiment se différencier et donc ils trouveront les moyens de le faire. Ça passe quand même par une prise de conscience de cette homogénéisation, je pense.
Soyons optimistes, le combat n'est pas perdu. Le mot le plus emblématique de ChatGPT, c'est « to delve » en anglais. Ça veut dire « analyser en détail »,« plonger dans le détail ». Tellement emblématique de l'IA que les scientifiques anglo-saxons ont tendance à ne plus l'utiliser par crainte qu'on les soupçonne d'avoir utilisé ChatGPT.
Donc pour conclure, Stéphane, merci de vous être surpassé pour cet examen méticuleux des tendances qu'il faudra analyser en détail.
De rien, Fabienne. Et à la semaine prochaine.
Il est important de noter que je suis extrêmement déprimée au moment où on se parle. Merci beaucoup Stéphane, à la semaine prochaine.